Bonjour à tous, bonne fête Omer. Et c'est marrant parce que ce matin, justement, on va parler d'une mère et d'un accouchement, puisqu'on va aborder Luc 2 qui nous parle de la naissance de Jésus. Il y a 15 jours, on a eu l'occasion de profiter d'un séminaire sur l'Apocalypse avec Mathieu Gangloff. Je remercie Jérémy notamment d'avoir organiser cet événement. Et il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites. C'est un sujet vaste. Mathieu a relevé le défi d'en parler en 3 heures, alors qu'il a écrit un bouquin entier dessus, donc il aurait pu passer beaucoup plus de temps. Et bien sûr, il n'a pas forcément eu toujours l'occasion enfin, il a parfois été obligé d'être un peu rapide sur certains points. Ce que nous tenions à vous dire en tant qu'anciens, c'est que dans sa présentation de la chronologie de la fin des temps, il n'a pas eu forcément le loisir de montrer les différentes facettes, les différentes interprétations qui existent concernant la fin des temps. Alors, historiquement, ici à Sonra, la tradition est plutôt pré-millénariste, mais il y a aussi d'autres manières de comprendre cette fin des temps. Il y a différentes interprétations, il y a des théologiens très haut placés qui ont des points de vue différents. On tient à insister sur le fait que pour nous, c'est un point qui est important, mais c'est un point qui est pour autant secondaire et pour lequel on comprend tout à fait qu'il y a des positions différentes et des manières de voir différentes. N'hésitez pas à venir nous voir quand vous êtes interpellé par les prises de position des personnes qu'on invite. C'est aussi le but de les inviter, c'est parfois de se confronter aussi à d'autres opinions. Et puis, on espère avoir l'occasion de poursuivre cette réflexion sur l'Apocalypse. On sait que Danny Amo, notamment, est calé sur la question. Donc, ce sera peut-être à l'avenir l'occasion de lui donner la parole et puis d'aller un peu plus loin sur ce sujet. J'aimerais lire avec vous Luc, chapitre 2, verset 1 à 6. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme, Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Avec Jérémy, le 25 avril, on a parlé ensemble de Luc 1, Jésus annoncé. Et Jérémy avait insisté sur la préface du livre de Luc, les 4 premiers versets, où Luc place le décor. Il veut faire le récit de la vie de Jésus de manière très précise. Pourquoi cette précision? Quelques rappels sur l'auteur de cet évangile. Luc est un médecin, c'est quelqu'un d'éduqué. Il a eu l'occasion de voyager avec Paul. Il a été au contact de plusieurs aussi témoins oculaires de la vie de Jésus. Il a une culture qui n'est pas juive à la base, même si c'est un fin connaisseur de la culture juive. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que il nous porte un regard qui, du coup, nous permet de mieux comprendre cette culture juive. Et dernière chose, et je reviendrai là-dessus à la fin, Luc est aussi l'auteur du livre des Actes. Et en fait, on ne peut pas comprendre Luc sans aller voir le tome 2, qui est le livre des Actes. Et il y a des échos entre ce que Luc pose dans son évangile et dans ce qu'il explique dans le livre des Actes. Pourquoi est-ce que Luc est un récit spécifique? voyez ce qu'on vient, le texte que l'on vient de lire, c'est un récit qui est assez plat. Il y a des précisions temporelles, l'empereur Auguste. Il y a des précisions géographiques. On passe de Nazareth en Galilée vers Bethléem. On suit un couple ici qui se rend pour un recensement administratif à Bethléem. Une femme accouche, le bébé est mis dans la mangeoire, il y a des bergers dans les champs juste après. Il n'y a pas d'adjectif qui vienne lui donner de l'emphase au récit. On a une description qui est assez simple. Et c'est ces aspects-là qui font la singularité de Luc et qui en font aussi le récit le plus complet sur la vie de Jésus. Regardez cette comparaison de ce que l'on apprend dans les différents évangiles. Le seul à traiter de tous les aspects de la vie de Jésus, c'est l'évangile de Luc. Matthieu parle aussi de la naissance de Jésus, mais ne parle pas de l'enfance de Jésus. Alors que, on va le voir dans ce chapitre 2, à la fin, il est question de Jésus qui est dans le temple à 12 ans. Et cet épisode n'apparaît que dans Luc. Pour ce qui est de Marc et de Jean, le récit de la vie de Jésus, de Marc et de Jean, commence avec le ministère de Jésus, avec son baptême et avec son ministère. Il n'y a rien sur l'enfant, la naissance et l'enfance de Jésus. Vous comprenez pourquoi? C'est un texte auquel on se réfère, Luc 2, lorsqu'on veut parler à Noël du thème de la naissance de Jésus. Cette particularité de Luc est intéressant lorsqu'on le met en écho avec l'objectif de chacun de ces évangiles. Matthieu nous fait le récit aussi de la naissance de Jésus, mais il le fait d'une manière hyper intéressante parce qu'il montre qu'il y a des mages qui arrivent de très loin pour rendre hommage au petit enfant qui est né. Il y a le roi Hérode qui cherche à tout prix à avoir des renseignements et qui va essayer d'éliminer cet enfant qui est un concurrent potentiel, jusqu'à provoquer la fuite de la famille en Égypte. Luc ne nous donne aucune information de ce type. Il n'est pas, contrairement à Matthieu, dans une lecture politique de l'histoire. Pourquoi? Parce que si Matthieu a l'objectif de présenter Jésus comme le nouveau roi, ce n'est pas le cas de Luc. Ce n'est pas non plus l'objectif de Marc. Marc insiste beaucoup sur Jésus comme le serviteur. Jean, dans Jean, au début, on a vraiment l'insistance sur la symbolique. Jésus, donc c'est la parole de Dieu, c'est la lumière et surtout, c'est Dieu lui-même. Et on a les signes ensuite de la divinité de Jésus dans Jean. Luc, lui, a un autre objectif. L'objectif de l'évangile de Luc, c'est à la fois de nous décrire avec détail la vie de Jésus pour les non-juifs, pour qu'on puisse connaître c'est qui Jésus. Mais aussi de montrer à quel point Jésus est le sauveur de tous. Et avec un verset clé qui résume ce que Luc veut faire, chapitre 19, verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est ainsi le sauveur de tous parce que c'est le Fils de l'homme. Et derrière cette expression, se pose quelque chose de très important, c'est que Jésus est réellement un être humain. Jésus est réellement Dieu venu comme homme dans notre condition humaine. Et si on va un peu plus loin dans la structure du livre de Luc, on remarque qu'il y a quatre grandes parties. La partie dans laquelle on est actuellement, le but de Luc, c'est de poser cette réalité que le début de la vie de Jésus, c'est un début humble et c'est un début miraculeux. Né d'une vierge et en même temps né dans une mangeoire. On voit dans les chapitres 4 à 9 que Jésus va passer son temps à annoncer une bonne nouvelle qui va être à la fois destinée en particulier aux gens les plus opprimés, aux parias de la société, mais en même temps un défi pour les puissants qui vont être mis en cause. Ensuite, 9 à 19, Jésus insiste sur le royaume de Dieu que tout le monde attend dans cette époque, mais il va montrer que ce royaume de Dieu est différent de ce que les gens attendent. Et enfin, chapitre 19 à 24, la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Vous voyez que dans ce passage de Luc 2, l'objectif, c'est donc de nous montrer à quel point ce Fils de l'homme est Fils de Dieu, de telle sorte à pouvoir mieux comprendre que la mort et la résurrection du Fils de Dieu sont une réalité extraordinaire, parce que c'est Dieu fait homme qui a accepté d'aller jusqu'à la mort, mais que la mort n'a pu retenir parce qu'ensuite il est ressuscité et qu'il est encore vivant aujourd'hui. Dans ce chapitre 2 de Luc, on découvre des caractéristiques à la fois de la divinité de Jésus et à la fois de sa normalité. Juste pour expliquer sa normalité, le dernier verset du chapitre 1 parle de Jean-Baptiste. Et ce dernier verset nous dit que Jean-Baptiste grandissait et se fortifiait en esprit. Au chapitre 2, verset 40, Luc écrit « Or l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Luc est le seul à insister sur cette croissance d'un enfant au fil du temps. Quelle caractéristique plus humaine et plus évidente que celle-ci ? Luc est bien là pour nous montrer que Jésus a grandi comme n'importe quel d'entre nous, comme un être humain. Mais il insiste pour montrer la divinité de Jésus à travers des signes extraordinaires. Les premiers signes, c'est bien sûr les grossesses miraculeuses dont fait écho Luc. La Élisabeth qui tombe enceinte naturellement, mais à un âge où ce n'est pas naturel de tomber enceinte. Marie qui devient enceinte par une action miraculeuse du Saint-Esprit. Et puis surtout, associé à ça, un ange et une foule d'anges qui vont célébrer la gloire de Dieu devant les bergers. J'aimerais lire les versets 8 à 14. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » C'est un peu comme cet ange qui arrive au début, qui est super content. C'est un peu comme moi quand je regarde le culte sur Zoom. Je ne peux pas me retenir, j'ai envie de venir là avec la foule de vous pour pouvoir chanter ensemble. Là aussi, les anges n'ont pas pu se retenir, ils sont venus rejoindre l'ange annonciateur pour adorer et louer Dieu. À cette foule d'anges qui annonce cette bonne nouvelle, il y a aussi un vocabulaire qui est particulier. Au verset 10, « Je vous annonce une bonne nouvelle ». Il vous est né, verset 11, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Ce mot de Seigneur, il n'est pas anecdotique. Le Seigneur, c'est Dieu. Les anges désignent au berger ce petit bébé qui est né comme Dieu lui-même. Et vous voyez qu'à travers ces différents éléments, Luc nous montre bien à quel point cet enfant qui est né, c'est un enfant extraordinaire. C'est le Fils de Dieu. Parallèlement à ça, il y a aussi des témoins ordinaires. Élisabeth et Zacharie, on en a parlé. Joseph et Marie, les bergers, Siméon, Anne. On ne va pas lire tout cela dans le texte, mais ce sont les personnages que l'on croise dans Luc 2. Et ils ont un point commun, c'est que ce sont vraiment des personnes ordinaires. Zacharie, c'était un lévite qui servait dans le temple, mais ce n'était pas le souverain sacrificateur, ce n'était pas le chef des lévites. Joseph et Marie, lorsqu'ils viennent consacrer Jésus et puis offrir une offrande qui était, que la loi leur demandait d'offrir suite à la naissance d'un premier-né, ils offrent une tourterelle, oui, un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, nous dit le texte. Et si on va voir dans la loi, on réalise qu'en fait, ceux qui offraient des tourterelles ou des pigeons pour la naissance d'un premier-né, c'était des pauvres. Les bergers, c'est une profession qui n'est pas très bien vue à l'époque. Ça ne fait pas partie des professions qui sont considérées comme de la réussite sociale et économique. Et pourtant, les anges viennent se révéler aux bergers. Lorsqu'on pense maintenant à Siméon et Anne, mais Anne, on nous dit qu'elle a 84 ans. Alors, c'est une, pour l'époque, très vieille femme. L'espérance de vie, elle devait être autour de 35-40 ans. 84 ans, c'est un record. Et c'est à elle qui a la révélation et l'assurance et qui proclame que ouais, ce bébé-là, c'est bien Christ. Et Siméon, je vais vous en parler ici. Siméon, regardez dans cette illustration de Rembrandt, qui date du XVIIe siècle. Regardez Siméon, le texte ne dit pas quel âge il a, mais dans la représentation traditionnelle, il est toujours représenté en vieillard, barbu. Il a une joie incroyable, il prend l'enfant dans ses bras. Et ici, c'est marrant parce que Rembrandt le représente avec les yeux fermés. Or, et j'aimerais lire le texte avec vous, vous allez voir que ça a une importance, ce détail. Regardez ce que nous dit le texte au sujet de Siméon. Siméon, il prit Jésus dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Ici, Siméon, il dit des paroles qui sont riches de sens. Déjà, il est soulagé. Il a vu le Messie. Il peut mourir en paix. Ensuite, il insiste sur le fait que ce Messie, ce bébé qu'il a dans les bras, c'est le salut. C'est le salut que Dieu a préparé non seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour tous les peuples. Et il l'appelle la lumière pour éclairer les nations. Or, où a lieu cet événement? On nous montre sur cette autre illustration d'un peintre contemporain de Rembrandt. On est dans le temple. Or, qu'était le temple pour les Juifs de cette époque? Le temple, c'était le lieu de rayonnement de la gloire de Dieu. C'était le lieu où la lumière divine était là pour éclairer les nations. Mais dans ce temple même, Siméon affirme que la lumière, c'est ce petit bébé. Et on voit qu'une nouvelle ère commence et une nouvelle perspective s'ouvre aux yeux de Siméon et aux yeux de l'histoire. Et là où j'aime bien cette illustration, c'est que justement on est dans le temple, mais l'image est très sombre. Sauf que la lumière est pointée sur ce vieillard qui tient dans ses bras le petit bébé et qui parle justement d'une espérance extraordinaire. Voici la lumière des nations. Le point commun entre tous ces personnages, ici il y a un dernier personnage qui est Anne, le point commun entre tous ces personnages, c'est qu'ils nous rappellent le rythme du salut. le rythme du salut, il est en trois étapes. Premièrement, ça commence avec notre soif d'autre chose, notre idée qu'on a besoin de plus pour que notre vie soit satisfaite. Ici, toutes ces personnes étaient en attente d'un sauveur, d'un messie, de quelqu'un qui vienne délivrer le peuple d'Israël de la domination romaine, mais plus généralement qui vienne redonner une dignité à ce peuple opprimé depuis plusieurs centaines d'années. Une fois qu'il y a ce besoin d'être sauvé qui apparaît, deuxième étape, eh bien, on peut réaliser l'initiative de Dieu qui propose une solution pour que nous soyons sauvés. Ici, Dieu envoie un Messie, un Sauveur, le Seigneur, à travers cette naissance extraordinaire. Et la troisième étape, c'est notre réponse. Qu'est-ce que les bergers, qu'est-ce que Siméon, qu'est-ce que Anne ont répondu lorsqu'ils ont été mis en présence de ce Sauveur qu'ils attendaient, auquel ils aspiraient? Eh bien, ils ont répondu tous par de l'émerveillement, par des cœurs qui débordent et qui les remplit tellement qu'ils sont submergés d'émotions. Et puis en même temps, leur bouche ne peut pas se taire. On voit que on a cet écho-là dans le psaume 71, 17 à 18. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Je ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Que ce soit Marie, qui est dans une situation compliquée, de donner naissance à cet enfant alors que Joseph n'est pas le père, que ce soit les bergers, qui font partie d'une profession qui est méprisée pour l'époque, que ce soit ces vieillards, Siméon, Anne, qui sont au crépuscule de leur vie et pour lesquels la société n'a peut-être plus beaucoup de regard de bienveillance. Toutes ces personnes ont à cœur une chose, c'est de partager à quel point ce qu'ils vivent est extraordinaire. Mon fils de 3 ans est chez ses grands-parents cette semaine. Et c'est amusant parce que on a quelques nouvelles. Et ce matin, en fait, il était au salon en train de s'amuser avec tout plein de petits personnages et de raconter l'histoire d'Abraham et d'autres personnages dont sa grand-mère lui a parlé cette semaine. Et la mamie qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Oh, je prépare l'école du dimanche, mamie. » Incroyable l'influence que sa grand-mère peut finalement avoir sur lui à 3 ans, et elle le marque un peu plus tôt dans la semaine. Elle était au salon en train de prier pour des personnes de l'église qu'elle a à cœur. Elle était toute seule au salon avec Nathéo qui jouait à côté d'elle. Et puis quand elle a eu fini, comme elle priait à haute voix, quand elle a eu fini, Nathéo lui dit « Mais mamie, tu peux aussi prier pour moi ?» Et il y a des choses comme ça qui se mettent en place, et grâce à l'influence d'une grand-mère. Waouh, quel encouragement de voir que, quel que soit notre âge, il y a toujours un futur pour nous, et que Dieu peut se servir de nous. Alors, tout n'est pas encore clair dans la théologie de mon fils. Il a tué une fourmi, et il a dit à sa mamie, c'est Dieu qui me l'a demandé. On va travailler ça. Alors, cet enthousiasme général que l'on voit dans ce passage, il est à nuancer. Parce que même si Marie, verset 19, garde le souvenir de tout cela dans son cœur, même si Joseph et Marie, verset 33, étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui, pour autant, Siméon va être très clair sur la suite des événements. Versets 34 et 35, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Toi-même, une épée te transpercera l'âme, ainsi les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Siméon est lucide sur le fait que ce sauveur tant attendu, et c'est ce que Luc va montrer ensuite dans son évangile, apporte, oui, le salut, mais il apporte aussi le jugement. Et c'est tout l'objectif de ce qu'on va voir lorsque Luc aborde la question du royaume de Dieu, où il montre qu'en fait, le royaume de Dieu, c'est extraordinaire, mais pour l'obtenir, il y a un coût. Il y a la nécessité de passer par la repentance et le renoncement à soi-même. Je ferme cette parenthèse, puisque c'est plus tard que l'on verra ça. En fait, Siméon ne fait que répéter ce qu'on lit dans Ésaïe 8, verset 14, cet enfant sera une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher toutes pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup parmi eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. Vous savez, c'est ce thème que l'on retrouve dans les évangiles et ailleurs, que Jésus devient une pierre d'achoppement alors qu'il devrait être une pierre de salut. Qu'est-ce qu'on peut retenir au final sur Luc 2? Eh bien, que dans ce passage, à la fois Luc présente Jésus comme le Fils de l'homme, de nature divine et de nature humaine, mais en même temps, il prépare la suite en montrant que ce petit bébé qui est né va être aussi un défi pour les puissants, va être l'occasion de montrer que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de très spécifique, qui a un coût, et il insiste sur le fait que Marie va avoir son cœur transpercé. Bien sûr, il annonce par avance la mort de Christ. En résumé, dans ce passage, Jésus est bien de condition humaine et divine. Dieu fait parfaitement enfant et enfant parfait. On a le passage où Jésus est dans le temple à 12 ans. Ses parents le cherchent de partout, mais il est là pour s'occuper des affaires de son père. Et le passage insiste sur le fait qu'il était soumis à ses parents. Des signes extraordinaires, des témoins ordinaires qui nous permettent de voir à la fois la divinité et l'humanité de Christ. Et enfin, la question à laquelle on peut tenter de répondre, chacun pour soi, c'est comme ces témoins qui ont répondu à cette présence du Messie, à cette découverte du Sauveur, à cette découverte du Seigneur, comment mon cœur vibre-t-il à cette bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, de Jésus à la fois homme et à la fois Dieu? Et j'insiste sur ce verbe de vibrer, parce que oui, au début de ma vie chrétienne, quand je réalise qui est Christ et que je découvre qui il est dans les Écritures, mon cœur vibre. Mais ensuite, la question, c'est que est-ce que mon cœur continue à vibrer tout au long de ma vie chrétienne? Et quand je vois la manière dont la grand-mère de Mathéo l'influence, eh ben, je me réjouis de voir que son cœur vibre toujours pour Christ et que du coup, en écho, elle fait naître chez mon fils une vibration qui pourra lui faire aussi aimer Christ et découvrir et avoir envie de découvrir qui est Christ. Je vous laisse avec cette question et je vous mets juste l'eau à la bouche pour Luc chapitre 3 que l'on étudiera dans 15 jours avec ce thème, Jésus est prêt et c'est quelqu'un qui est loin qui viendra nous en parler. Je vous laisse deviner qui c'est. Bon dimanche.